désolé.
Il s'excuse, en français comme en espagnol.
Oui, désolé.
Parce que Juan Miguel Aguilera est espagnol. Et donc, petit à petit, il se fait une belle carrière d'écrivain, sa réputation chez nous. Il la doit d'abord à des romans de fantaisie historique. Donc, La folie de Dieu, Rila et Le sommeil de la raison. Et vient de sortir maintenant chez la Talente une grande histoire de SF traitée comme un thriller qui s'appelle Le filet d'Indra. Alors, pourquoi Juan Miguel a commencé à écrire et surtout, pourquoi avoir choisi le genre de la science-fiction et de la fantasy ?
Bien, yo empecé a escribir en finales de los años 80.
Donc en fait, j'ai commencé à écrire à la fin des années 80.
Empecé a escribir ciencia ficción y una parte de la ciencia ficción que se llama ciencia ficción hard.
Et en fait, j'ai commencé en Espagne par écrire de la science-fiction du sous-genre qui s'appelle de la hard science.
El hard es, si alguien no lo sabe, ciencia ficción con muy rigurosamente científica.
Donc une science-fiction finalement avec une grande rigueur scientifique.
Yo lo he dicho muchas veces, pero lo repito. Cuando yo era pequeño me leí todo Julio Verne.
Donc,
soy un gran admirador de Julio Verne, de Jules Verne. Pardon.
Donc je l'ai dit maintenant assez souvent, donc un certain nombre de personnes commencent à le savoir. Quand j'étais petit, j'étais fan absolu de Jules Verne. Je lisais énormément de romans de Jules Verne.
Y yo en España creé el escenario a Casa Puspa, donde se desarrollan las novelas de este ciclo, que fue lo primero que escribí.
Et donc j'ai créé en fait le monde d'Akasa Puspa, qui est donc le monde dans lequel se déroule le roman Mondes et démons.
Sí, esta es la segunda parte. La primera parte la tradujiste tú, que se llamaba Les fils de l'éternité, que apareció en Francia.
Sí. Et donc ça c'est la deuxième partie et la première partie c'était le roman donc j'ai traduit Les enfants de l'éternité donc qui était paru aux éditions ISF et qui se déroulait aussi dans le même monde.
Aquí se ha conocido después, pero fue lo primero que escribí, lo que fui conocido en España.
Voilà, et donc en fait, il a été connu après, mais ça a été écrit. En fait, ça, c'est paru en France, enfin, ces choses-là sont parues en France plus récemment, mais ça a été écrit en fait avant les romans de fantasy.
Y después tuve una idea de crear una trilogía de novelas para tratar el tema del chamanismo desde un punto de vista científico.
Oui, et donc j'ai travaillé aussi dans ces romans sur un espèce de point de vue chamanique à l'intérieur d'un roman de science-fiction.
Et la première novela fue La folie de Dieu, que se publicó en España y tuvo mucho éxito, salió en tuvo varias reediciones y luego se publicó la primera novela en Francia.
Et donc quand j'ai commencé un petit peu à réfléchir à un peu plus d'ésotérisme à l'intérieur de la SF, c'est ça qui a donné en fait La folie de Dieu, où là j'ai commencé à basculer dans un univers qui s'éloignait un peu de la science-fiction tout en restant un peu de la SF.
Mais restons un peu au premier roman. Alors, vos quatre premiers romans en espagnol, dont un seul a été traduit par Sylvie, Les enfants de l'éternité, vous ne les avez pas écrits seuls, vous les avez écrits avec Javier Redal. Oui. Vous aviez peur de vous lancer seul ?
Et mon premier roman seul fait la folie de Dieu. Pardon.
Non m'importe. Que si la gente entiende, vale.
Mi primera novela en solitario fue la locura de Dios.
Oui, en fait, mon premier roman écrit en solo, c'était La folie de Dieu, puisque les premiers romans que j'ai écrits, je les ai écrits en collaboration avec un autre auteur espagnol qui s'appelle Javier Redal.
Mais pourquoi en commun ? Vous aviez peur de vous lancer seul ?
Sí, ¿por qué no escribir solo al principio?
En principio, empezó un poco con reuniones con Javier Redal, que es una persona que es un científico, es oui. Biólogo.
Et donc en fait au départ on discutait beaucoup avec Javier Redal, que je connaissais, et en fait qui est un scientifique, qui est un biologiste.
Et nosotros especulamos en un principio sin intención de escribir una novela sobre oui. la posibilidad de diseñar por pura diversión o por puro friquismo, como queramos llamarlo, una biología adaptada a vivir en el espacio, a vivir en Et nosotros tuvimos muy en cuenta, perdón.
Et donc en fait, lors de nos discussions, on s'amusait vraiment à réfléchir ensemble. On imaginait des tas de choses, et notamment lui avec sa vision de biologiste, ce que ça pourrait donner un homme qui serait adapté biologiquement à une vie dans l'espace ou à une vie loin d'ici.
Nous étions aussi très intéressés dans les idées du jésuite Pierre Teilhard de Chardin.
Et donc, on était tous les deux très, très intéressés par notamment les idées des jésuites et de Pierre Teilhard de Chardin. Et j'ai oublié de traduire un petit bout tout à l'heure qui me revient là. Et donc, on en discutait énormément. C'était vraiment pour le pur plaisir de réfléchir ensemble, de discuter. Il n'y avait pas de volonté d'écriture derrière à cette époque-là.
Nous dessinions un univers basándonos en su philosophie de l'adaptation de l'intelligence.
Et donc en fait on a créé en fait tout un univers, notamment en se basant un peu sur la philosophie de Pierre Teilhard de Chardin et puis avec nos imaginaires, dans lequel justement l'homme serait adapté à une vie ailleurs.
De hecho, en mi última novela, La Red de Indra, la fila de Indra, hay un homenaje a Pierre Teilhard de Chardin y a Jules Verne, que se conocen.
Et en fait, dans le filet d'Indra, il y a notamment en ajout un hommage à Pierre Teilhard de Chardin et à Jules Verne qui se sont rencontrés, qui se sont réellement connus. Donc un texte, une nouvelle qui est un hommage.
On y arrivera après au filet d'Indra. Mais vous n'avez pas travaillé qu'avec Javi Redal, vous avez aussi travaillé avec Rafael Marini, avec d'autres. Vous aimez bien travailler en collaboration?
Si, lo que pasa es que... Nunca ha sido tan fácil como con Javier Redal. Me fue tan divertido trabajar con Javier que luego lo he intentado muchas veces con otras personas, porque hay una cosa y es que es muy interesante escribir con otra persona porque aprende su forma de ver el universo y de escribir.
Et ben, en fait, j'avais pris tant de plaisir à travailler avec Javier Redal que j'ai tenté de reproduire l'expérience avec d'autres auteurs parce que pour moi, c'était extrêmement intéressant de travailler avec d'autres, de travailler en collaboration parce que quand on coécrit avec quelqu'un, en fait, on partage son univers, on découvre sa façon de penser, sa façon d'écrire et ça enrichit et c'est extrêmement divertissant à faire.
Pero yo creo que ninguna de las novelas que he escrito con otras personas han sido para mí satisfactorias, más que las que escribí con Javier. De alguna forma no hemos encajado igual de bien. Oui.
Et je pense que finalement, bien que j'y ai pris beaucoup de plaisir, aucun des autres romans ou des autres textes que j'ai pu coécrire avec d'autres auteurs ne m'a autant satisfait que la collaboration avec Javier. Et donc c'était peut-être moins bon, moins abouti. Enfin, on s'est moins complété avec Javier. Vraiment, on arrivait complètement à se compléter tous les deux.
Et yo, Rafael Marín. Para mí es el mejor escritor español de ciencia ficción. Yo lo admiro profundamente y he tenido la oportunidad de escribir varias cosas con él. Pero tenemos los dos demasiada personalidad y no encajamos.
Et Rafael Marín, donc, qui pour moi est vraiment un des plus grands auteurs espagnols de science-fiction, qui a un talent énorme. Pour moi, quand il y a eu ce projet de coécrire, c'était vraiment extrêmement intéressant. Mais on a eu du mal à travailler ensemble parce que finalement, on a découvert que tous les deux, on avait trop de personnalités et qu'il y avait des confrontations et que c'était difficile.
Eh bien, arrivons au travail en solitaire. Alors, le premier... solo, le premier roman solo, c'est La Folie de Dieu. Et avec La Folie de Dieu, vous vous lancez dans le roman d'une histoire alternative, mais avec des personnages bien réels. Donc La Folie de Dieu, c'est Raymond Lulle, ça se passe au XIe siècle, je crois, ou XIIe. Et puis après, il y a Rila. XIVe, oui. Alors, il y a Rila après, qui se passe, lui, au VIIIe, XVe, mais du côté arabe, Rila. Et puis, il y a l'histoire avec Charles Quint, qui s'appelle Le Sommeil de la Raison, qui, lui, se passe au début du XVIe. En fait, comment vous faites vous utilisez des personnages réels et vous les mettez dans une histoire à vous. Ça vous oblige à avoir beaucoup de documentation, par exemple?
Si, yo estaba muy acostumbrado a cuando escribo ciencia ficción a documentarme mucho sobre la parte científica de mis historias.
J'ai toujours été habituée, finalement, lorsque j'écrivais de la science-fiction, à me documenter énormément, puisque j'ai commencé par une science-fiction un peu hard science, avec vraiment un argument scientifique qui tienne la route. Donc j'ai toujours été habituée, quand je travaillais, à avoir beaucoup de documentation.
Et cada una de mis novelas históricas, yo suelo leer, por diversión, ensayo científico, como cosa normal. Pero en la parte histórica me apasioné por cada personaje. Fue una absoluta pasión en el que durante los meses que estaba preparando estas novelas le daba la paliza a todo el mundo diciéndole, tú sabías que... En fin, no hablaba de otra cosa y fue una locura tanto la primera novela como Rila como la tercera. Fue una obsesión.
Et donc du coup, quand il s'est agi de se documenter, déjà moi j'aime bien l'histoire et j'avais envie de placer des intrigues donc dans l'histoire, et donc je me suis documentée. Alors là, c'était une vraie folie, une vraie frénésie, parce que d'abord j'aime bien lire des essais scientifiques, donc je recherchais vraiment des essais universitaires et je me documentais. Et après j'enquiquinais tout le monde à longueur de temps, parce que j'habitais vraiment avec le personnage, sa vie, son histoire. Oh, tu savais qu'un tel a fait ça à telle époque. Oh, tu savais qu'il s'est passé ça. Et j'ai vraiment enquiquiné tout le monde.
La idea de mi primera novela, la de la Folie de Die, fue en un viaje que hice a Mallorca. Ramón Llull es de Mallorca. Y visité una iglesia en la que había un gran cuadro de Ramón Llull. Y un cuadro enorme dentro de una iglesia. Y estaba todo rodeado de instrumentos científicos de la época.
Et en fait, l'idée de la Folie de Dieu m'est venue parce qu'un jour, j'ai voyagé, je suis allée à Mallorca. Et puis j'ai visité une église, et donc là il y avait un immense portrait de Raymond Lull, et qui était entouré d'instruments scientifiques de l'époque.
Sí, para mí esto fue absolutamente increíble, ¿no? Una iglesia gótica con un cuadro de un santo, porque aparecía como un santo con vestido de como un monje, y que estaba rodeado de instrumentos de ciencia.
Et pour moi, c'était absolument époustouflant de voir cette église gothique avec ce tableau qui ressemblait en fait à un tableau de saint, quoi. Il avait des vêtements de moine, une espèce d'auréole. Enfin, il était peint à l'ancienne. Et puis tous ces instruments scientifiques autour.
Y empecé a investigar sobre Ramón Llull y fue el origen de mi primera novela.
Et donc le personnage m'a tellement interpellé que j'ai commencé à faire des recherches sur Raymond Lull et que c'est ça qui a été à l'origine de mon premier roman.
Ese choque entre lo racional de ese cuadro con esos instrumentos científicos y la parte esotérica o religiosa del entorno de una iglesia gótica fue ese choque que yo quise transmitir en mi novela.
Et donc en fait le choc entre finalement ces instruments scientifiques qui présentent quand même un aspect rationnel et puis tout cet environnement très ésotérique de cette église gothique avec l'environnement religieux, ce choc là ça m'a vraiment, je me suis dit il y a quelque chose à faire là autour de ça, et c'est de là qu'est partie l'idée du roman.
En fait vous êtes quand même fameusement audacieux, parce que prendre comme personnage principal un personnage historique, Raymond Lull, dans Le sommeil de la raison, c'est aussi un personnage historique vivace. Il ne faut pas leur faire n'importe quoi, je suppose.
Oui, que quand vous utilisez personnages historiques, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce qu'il y a une histoire à respecter.
Oui, de hecho, en Le sommeil de la raison, la cosa es más grave aún, porque el personaje del rey Carlos V, encontré un documento que desde que nació hasta que murió, todo lo que hizo en su vida está reseñado en ese documento, con lo cual no me dejaba ningún margen para trabajar.
Oui, et donc c'est encore pire que ça, puisque dans Le sommeil de la raison, le personnage de Charles Quint finalement tombe sur un document qui va énumérer toutes les actions qu'il va de sa vie. Et donc c'est vrai que travailler avec des personnages historiques, c'est pas simple.
Pero para mí los límites, los problemas, yo creo que me estimulan la imaginación.
Mais moi je crois que au contraire, ces limites-là, c'est ce qui stimule mon imagination.
Yo me he documentado de cosas que probablemente solo unas pocas personas luego van a saber que es verdad o mentira. Y aún así hay fallos, como me pasó en Le sommeil de la raison, que aparece un canal en Bruselas que no se inauguró hasta... Y eso a mí, a lo mejor solo se ha dado cuenta él y unas pocas personas que viven en Bruselas, pero yo quería que fuera todo exacto. Y tengo esa obsesión, es una obsesión.
Et alors, j'essaye justement, je me documente, mais jusqu'à trouver des détails que peu de gens connaissent, ou que peu de. Des fois, il arrive parfois que je fasse des toutes petites erreurs, mais qui sont tellement mineures que peu de gens le savent. Et alors, notamment, justement, l'erreur dans le sommeil de la raison. Il y a des choses qui se passent à Bruxelles, et donc j'ai situé une scène où, en fait, on présente un canal qui finalement n'a été creusé et inauguré que bien plus tard, et où donc là, évidemment, j'ai pas respecté. L'histoire.
Pas tellement bien plus tard. Hein. Ça se passe vers les 1515 ici, 1520, et le canal a commencé à être creusé vers 1550. Donc l'erreur n'est pas si grande. Et en fin de compte, c'est pas grave. Mais je lui avais signalé quand même, comme je suis bruxellois.
Pour moi, c'est une obsession d'être exact.
Et voilà, pour moi, c'est une obsession d'être vraiment le plus précis possible et d'aller. Donc voilà, ça m'embête.
Une dernière question sur ces romans d'histoire alternative. Javier Negrete fait aussi pas mal d'histoires alternatives avec plutôt l'Antiquité. Est-ce qu'il y a une école espagnole de fantasy historique de ce genre?
Non, yo creo que tanto Javier Negrete como yo hemos salido de la ciencia ficción.
Bah, en fait, je crois pas, parce que en réalité, autant Javier Negrete que moi, quelque part, on est sorti du domaine de la science-fiction.
Y yo creo que eso te obliga a plantearte las historias desde un punto de vista que el utilizar la historia viene un poco como lógico. Pero hay una diferencia. Yo, perdón.
Oui, et donc nous, on a été obligés finalement du fait qu'on est un peu sorti de la SF et quand on a travaillé un peu sur l'histoire, d'avoir des intrigues où il y a une certaine logique et justement un certain cadre.
Yo creo que lo que ha hecho Javier Negrete sí que es historia alternativa, sí que es. Pero yo intento hacer una historia occulte.
Alors, en fait, Javier, lui, il fait effectivement des histoires un peu alternatives. Moi, je dirais que j'essaye plutôt de faire, j'ai plutôt essayé de faire une histoire occulte.
Siempre sucede algo en mis novelas que puedas pensar que eso ha sucedido realmente, pero ha quedado oculto por un accidente de la historia.
Et donc, en fait, moi, dans mes romans, je glisse toujours au milieu de l'histoire vraie des événements qui pourraient s'être produits, mais que, par une faille de l'histoire, on aurait caché ou bien oublié.
Alors, passons à la science-fiction maintenant et au dernier bouquin, Le filet d'Indra. Enfin, c'est le dernier traduit en français. C'est une belle histoire de science-fiction, un peu vertigineuse. On découvre dans le sous-sol du Canada, grâce à un nouveau satellite américain, une énorme géode de plusieurs kilomètres de long, qui apparemment est bien un artefact, quelque chose d'artificiel. Et une équipe de scientifiques et de militaires, américains évidemment, va essayer de savoir, de percer le secret. Et j'aimerais bien que Sylvain Demierre nous fasse le plaisir de lire la découverte par les deux scientifiques en question, Laura et Neko, qui est son assistant, de cette sphère.
Un cercle de gros projecteurs illuminait le centre de la grotte. Le géologue leur montra ce décor d'un geste de la main. Sous le sol rocheux, on avait mis au jour une surface noire, brillante, parfaitement circulaire d'environ 20 mètres de rayon. L'anneau lumineux s'y reflétait comme en un miroir. Plusieurs personnes s'affairaient alentour. Laura atteignit la limite entre la roche et cette surface énigmatique. La pierre semblait avoir été dégagée avec un soin méticuleux, à l'aide de fins marteaux de géologue, non sans laisser de légères traces. Elle se pencha pour mieux voir. Peu après, elle tendit la main pour effleurer le matériau. « Froid au toucher, » dit-elle avant de le gratter du bout des ongles. « Très solide, brillance un peu huileuse, couleur noire intense, poli parfait. » On aurait dit un grand disque, plutôt plat, peut-être un peu bombé, gisant sous le sol de granit. Il avait affleuré lorsqu'on avait ôté la pierre. « C'est quoi ce truc ?» s'écria Neko en s'approchant du disque noir et en le frappant du pied. « Une soucoupe volante ? Un canular ? Tais-toi, Neko !» ordonna Laura. Le jeune homme ouvrit la bouche comme s'il allait poursuivre, puis la referma aussitôt. Le connaissant, Elle savait combien il était impressionné. Ce n'était pas un leurre impossible. Ces militaires n'auraient pas cherché sottement à les berner en les amenant auprès d'une plaque noire en composite qu'ils auraient enterrée eux-mêmes au préalable. C'eût été stupide, et Jim n'aurait pas fait appel à elle pour une telle mise en scène. Elle s'approcha encore et observa la limite entre la pierre et la surface polie, bel et bien réelle, parfaitement incrustée dans le granit. 2 milliards d'années. Elle ôta une bague où était enchâssé un diamant de belle taille. Inutile d'abîmer ce bijou, fit Jim en lui prenant la main. C'est bien le matériau auquel tu penses. On a déjà vérifié. Je veux en avoir le cœur net, dit-elle. Elle frotta le diamant contre la surface noire. Il laissa une nette traînée blanche comme du sel. Dommage, dit son ex-mari. La bague semblait précieuse. Un cadeau de Ramon? Non, je me la suis offerte pour mon second divorce. Du diamant noir? Lança Neko, ne pouvant réfréner son excitation. Est-ce qu'un processus naturel peut expliquer un tel phénomène? Une plaque de diamant quasi plane, comme de l'ardoise? En vérité, ce n'est nullement un disque plat, fit Kaplan. Nous sommes devant la calotte d'une grande sphère de 2 kilomètres de diamètre. C'est une géode parfaite en diamant carbonado. Incroyable, glissa Laura tout bas. Le plus intéressant se trouve à l'intérieur, ajouta le géologue. Vous avez des images du cœur de la sphère? Interrogea Neko. Oui, répondit Jim. Vous voulez voir?
Et voilà, on verra qu'à l'intérieur de la sphère, qui est creuse, il y a...
Qué bonito ce français. Todo suena más inteligente y más bonito.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il dit qu'en français, ça sonne super bien, c'est vraiment super.
Mieux qu'en espagnol?
En tout cas...
Todo parece más inteligente en français.
En tout cas, je peux dire avec le regard de la technicienne que donc mon collègue Christophe Joss, donc, qui traduit chez La Talente, a fait un travail absolument remarquable sur le style de Juanmi.
Et donc, à l'intérieur de cette grande géode, il y a du vide et un double cylindre au bout évasé et qui, lui, contient un anneau qui est peut-être une espèce de trou noir. C'est très étonnant et évidemment, ce n'est pas de la fabrication humaine. On le verra par la suite. Une géode ici, enchâssée dans la Terre. Et dans Mondes et démons, il y a une grande sphère qui, là, n'est pas dans la Terre, mais enchâsse tout un amas avec 6 planètes, je crois, et un soleil. Vous aimez bien les géodes comme ça, qu'elles soient immenses ou qu'elles soient de 2 km de diamètre?
Sí, es una forma básica de que los antiguos pensaban que podían contener todos los sólidos. Es una forma, la forma más perfecta, la forma más de la esfera para los griegos era la perfección.
Oui, ben, la sphère, en fait, pour les Grecs notamment, c'est la forme parfaite. Et en plus, la sphère, elle peut contenir plein de choses.
Mais oui.
Sí, sí. Esta, la novela de la historia de Casapuspa, yo he hablado bastante. Con lo mal que hablo francés, pero me he entendido con Lauren Gendelfol, Lauren, sobre sus esferas Dyson, sobre su mundo de esferas Dyson. Lauren, Laurent.
Oui, en fait, voilà, je lui rappelais une chose, c'est-à-dire une discussion qu'ils avaient eue un jour ici aux Imaginales avec Laurent Jeunefort, où à l'époque, d'ailleurs, en plus, Juanmi parlait beaucoup moins français que maintenant, puisque au fil des années, maintenant, il commence vraiment à bien comprendre. Vous avez remarqué, j'ai plus à traduire lorsque les questions sont posées. Et donc, ils ont réussi en dessinant sur du papier, parce qu'ils sont passionnés tous les deux par les sphères de Dyson, hein, des sphères scientifiques. Il y a eu une discussion, une soirée complète autour de ce thème-là, et ils se comprenaient et ils échangeaient là-dessus.
Y ahora en julio, cuando en España, en la Semana Negra de Gijón, uno de los invitados es Larry Niven, que ya sé que en Francia no es muy popular, pero en España lo es mucho y creo su mundo anillo y lo voy a presentar yo y voy a hacerle yo la entrevista.
Donc en fait.
Sí, sí, sí.
Alors en juillet prochain, donc à la Semana Negra de Gijón. Alors pour vous dire, c'est un petit peu le pendant des étonnants voyageurs, donc sur les genres noirs, le voyage, etc. Donc dans le nord de l'Espagne. Donc Juanmi expliquait qu'il y aura Larry Niven qui sera invité, et donc c'est lui qui va avoir l'honneur de l'interviewer et de le faire parler justement, et avec notamment ces mondanos là que. Voilà, donc il est également passionné.
Mais toute cette information scientifique, vous êtes seul maintenant, vous n'avez plus un biophysicien ou pour vous aider, Javier Redal n'est plus à côté de vous. Comment vous passez de l'histoire que vous interprétez en étant précis à un peu cette possibilité infinie que vous avez d'imaginer le monde tout en gardant présent les informations scientifiques de base? Qui ne sont pas de base pour nous, mais qui sont de base pour vous peut-être. En fait, d'où vous vient cette information scientifique ?
Sí. Yo soy un apasionado de la ciencia y suelo leer ensayos científicos como diversión. Yo estudié bellas artes, no tiene nada que ver con...
Alors en fait, moi j'ai une passion pour la science, j'adore ça, et donc un de mes loisirs, c'est de lire carrément des écrits universitaires et des essais scientifiques, bien que moi, ma formation de base, c'est les beaux-arts. Donc rappelons que Juan Miguel Aguilera est donc en Espagne, donc il a été designer industriel, et il est aussi illustrateur. Donc...
Et d'ailleurs, dans le livre, il y a des dessins de la base où se font ses recherches, etc.
Todo, siempre me hago dibujos. En este caso, quisieron reproducirlos. La Talant quiso reproducirlos, oui. Porque muchos de estos dibujos se los mandé al traductor para que entendiera mejor. Pero son muy bonitos. Vamos a sacarlos.
Oui. Et donc Juanmi expliquait qu'il fait beaucoup de dessins, beaucoup de croquis. Et pour aider le traducteur à comprendre, il lui a fait des tas de croquis pour montrer donc des dessins. Et donc justement, la Talante en a publié une partie.
Pero todas las novelas que escribo, normalmente me hago diseños que no se los enseño, no los muestro a nadie. Son para mí. Para entender cómo es el escenario que estoy describiendo.
Et donc dans tous les romans qu'il écrit, il dessine également des tas de dessins pour se créer les univers, pour se les représenter. Alors en aparté, je peux signaler aussi que Juan Miguel Aguilera a fait la couverture de Dimension Espagne, donc une anthologie de SF espagnole, où on voit justement... Et ça aussi, c'est Juanmi qui l'a fait. Où on a justement un taureau et on a une fameuse sphère, encore une fois. Voilà, c'est...
Mais n'ayez pas peur si vous lisez ce livre, je vous le conseille. La science est peut-être un peu ardue, mais il faut passer là-dessus. Et il ne faut pas s'endormir, mais se laisser aller à pénétrer là-dedans. Et tant pis si on ne comprend pas tout l'aspect scientifique. Ce qui compte dans ce livre, ce sont des gens... et les gens qui essayent de découvrir les choses. Et Aguilera aime bien faire parler les gens et montrer les gens dans leur quotidien. Un autre extrait, c'est Neko, l'assistant de Laura, le type jeune mais aux intuitions géniales, l'astrophysicien, qui vient d'arriver dans la base. Donc c'est un extrait qui se passe avant ce qu'on a lu tout à l'heure, Sylvia Demierre.
Neko enfila son pyjama et s'allongea sur le lit king size, mais il était trop excité pour essayer de fermer l'œil. Il trouva des chaussons sous la table de nuit, les enfila et entreprit d'explorer les recoins de la suite, scrutant chaque détail. Dans le minibar, il découvrit des jus de fruits et divers rafraîchissements, mais pas une goutte d'alcool. En revanche, il fut heureux de constater que le téléviseur plasma diffusait des programmes érotiques. L'écran était sur un chariot et il y avait une prise dans la salle de bain, de sorte qu'il poussa l'appareil pour le mettre en face du jacuzzi. Il se versa un grand verre de Sprite avec un glaçon et une tranche de citron vert, puis s'immergea dans l'eau bouillonnante, la boisson dans une main, la télécommande dans l'autre. Il sélectionna la chaîne porno et se masturba. Il pensait se détendre et trouver le sommeil. Il n'en fut rien. Une heure après... il sortit du bain, la peau fripée et mort de faim. Dans un placard juste au-dessus du minibar, il avisa des paquets de chips et des fruits secs, mais son estomac réclamait des aliments plus consistants. Il enfila un jean usé, des Nike Shox argentés et un t-shirt noir où était imprimé « May the Force be with you » sous un vaisseau spatial en forme de hamburger.
Voilà. Donc, vous voyez, Aguilera fait vivre ses personnages. Un jour, Juanmi m'avait dit que mes personnages mangent, boivent et pissent. Pourquoi vous voulez les faire aussi vrais?
Bueno, conozco mucha gente como Neko, porque en el mundillo que me muevo hay mucha gente así. Y...
Dans le milieu où j'évolue, il y a beaucoup de gens comme Neko.
Y quería hacer un personaje real, porque además hay muchas... Las camisetas que se coloca, se pone Neko, todas contienen un guiño para gente que son como él, que van a entender la referencia.
Oui, et donc en fait, par exemple, moi j'avais envie de lui donner vraiment un côté réel et réaliste. Et, alors il a tout le temps des chemises avec des slogans, etc. qui sont, et c'est en fait des espèces de rappels, de blagues à des gens qui ont les mêmes et qui vont se reconnaître.
Pero siempre me preocupa eso. Yo me acuerdo en Rila, que el personaje llega a... Se mete en una situación terrible donde son sacrificados, huye por la selva y de repente digo, bueno, lleva un montón de tiempo y no ha meado ni ha hecho pis ni nada. Y puse una escena en la que hacía pis, porque no solo es correr por la selva y tal, pero es una cosa que para mí le añade, le rompe un poco el aire heroico que tienen muchas veces las novelas americanas, que es todo como muy, muy, muy perfecto.
Alors, par exemple, dans Rila, je me souviens d'avoir une scène où le héros, finalement, manque d'être sacrifié, il s'enfuit, il erre dans la jungle, il fait des tas de choses. Et en fait, là, à aucun moment, il fait ses besoins ou autre. Enfin, je ne l'avais pas décrit. Et après, je me suis dit, finalement, c'est peut-être un petit peu incroyable. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir ces espèces d'héros à l'américaine, aseptisés, qui ne mangent jamais, qui font... Voilà, moi, les miens, ils sont humains. Et donc, forcément, ils ont des besoins humains. Et de temps en temps, je les décris. Ça les rend plus vrais.
C'est vrai dans ce roman-ci. C'est vrai dans les romans historiques. C'est la même chose. Et là aussi, je suppose que Juanmi doit voir ce qu'on mange à l'époque. Est-ce qu'on peut manger des tomates au XIVe siècle en Arabie? Est-ce qu'on peut manger tel ou tel légume? Est-ce qu'il y a telle ou telle viande qui sont permises? C'est tout un travail de documentation, là, alors, pour faire vivre au quotidien les gens.
Sí, sí, todo eso para mí es muy importante y sobre todo porque hay lectores de novela histórica que en España han leído también mis novelas históricas y son gente muy intransigente con los pequeños fallos de ese tipo.
Oui, et donc je suis particulièrement vigilant parce que notamment en Espagne, il y a tout un public qui lit les romans historiques et qui a notamment donc lu mes romans historiques et qui sont extrêmement intransigeants vis-à-vis de ce genre de petits détails.
En Rila, por ejemplo, hay mucha descripción de una cosa que es poco habitual, como es las costumbres, la vida y la comida de los musulmanes.
Oui, dans Rila, par exemple, il y a quelque chose qui est peu habituel, c'est-à-dire une description vraiment des coutumes, des usages, de la vie quotidienne des musulmans de cette époque-là.
Y bueno, la noticia que tengo ahora es cuando vuelva de aquí, voy a ir a Egipto, porque va a aparecer Rila en árabe, es de las pocas novelas españolas que va a salir en árabe. Entonces voy a poder comprobar si he acertado o no, porque me lo van a decir...
Et donc, quand je vais quitter la France après les Imaginales, en fait, je pars pour l'Égypte, et ça va me permettre de vérifier si un certain nombre de choses que j'ai mis dans Rila étaient vraies, si, voilà, voir la réalité par rapport à moi, la documentation que j'avais.
C'est publié en...
Et effectivement, parce que Rila vient d'être publié en Égypte.
Dans Mondes et démons, vous imaginez des extraterrestres extraordinaires. Agressif, violent, tout à fait différent de nous. Là, vous pouvez laisser aller votre imagination complètement, mais en même temps, vous essayez de nous les faire comprendre. Est-ce que c'est votre désir d'écrivain, c'est de faire comprendre cette altérité?
Es exactamente el mismo juego que hago en Rila. Una cosa que me resultó muy apasionante, sobre todo leyendo los libros del antropólogo americano Marvin Harris, es que la civilización puede convivir con un estado de canibalismo o estados que nos parecen salvajes.
Alors c'est ça en fait qui est le plus passionnant et qui est à la fois présent dans un ouvrage comme Rila ou comme dans Mondes et démons. C'est finalement un peu de voir l'évolution des sociétés, avec notamment la vision d'un anthropologue américain,
Marion Harris,
et ça montre que certaines sociétés peuvent être cannibales, peuvent avoir des niveaux d'évolution différents.
El contacto entre los Angrith de Mundos y Demonios y los aztecas y los mayas de Rila y los árabes es muy parecido.
Et le contact, en fait, que ce soit le contact entre les extraterrestres de Mondes et démons, qui sont totalement différents de nous, mais les Aztèques, les peuplades ou les musulmans d'Henri Lah, c'est finalement la même chose.
Et le protagoniste qui acaba integrándose en su sociedad acaba comprendiéndola, et entonces, d'alguna forma, empieza a tener la vision de l'autre, que es algo que me ha interesado mucho.
Le héros se trouve projeté finalement dans un monde qu'il ne comprend pas au départ et il apprend petit à petit à appréhender cette autre civilisation qui n'est pas la sienne et à comprendre l'altérité.
Yo creo que eso se ha hecho muchas veces, pero se ha hecho siempre dulcificando la imagen del extranjero. Y eso no me gusta. Por ejemplo, la película Avatar.
Alors, c'est une chose qu'on trouve souvent dans pas mal de romans de science-fiction ou autres, mais en général, et notamment dans la SF, cette rencontre avec l'autre, on lui donne toujours une image adoucie, comme par exemple dans Avatar.
Los Navi de Avatar son unos tíos encantadores, son maravillosos.
Voilà, les extraterrestres d'Avatar, ils sont merveilleux, ils sont beaux, ils sont... voilà.
Yo creo que lo interesante es encontrarte con extraterrestres o con humanos, con una cultura tan agresiva y que a pesar de todo acabes comprendiéndola y acabes conviviendo con ella.
Mm-hmm. Donc en fait quand on rencontre une culture comme peut être par exemple la culture terrestre agressive, etc., le fait de la côtoyer, après on finit par la comprendre.
Les Angriffes pourtant, c'est un défi de les faire comprendre, vos méchants de Mondes et démons qui ressemblent à des diables et vraiment à des démons. C'était un pari pour vous de les faire comprendre par le lecteur.
Sí, pero básicamente se mueven, no son seres irracionales. Es decir,
oui, mais finalement, si on regarde bien, c'est pas des êtres irrationnels.
Para ellos los humanos son comida como para nosotros son las vacas. Imaginemos que encontramos un planeta habitado por vacas.
Oui, et donc par exemple, pour eux les humains, c'est de la nourriture au même titre que pour nous les vaches ou les bœufs. Et imaginons qu'on débarque sur une planète peuplée par des vaches.
Y que mucho más tarde descubrimos que son inteligentes.
Et qu'on découvre beaucoup plus tard que c'est des êtres intelligents avec une logique, une culture.
Imagino que en el futuro de la historia de los Angriffs habrá un Angriff que dirá no nos comamos a los humanos porque son inteligentes, pero aún no han llegado a ese punto.
Voilà, et donc imaginons que dans le futur des Angriffs, finalement, il y ait des chercheurs Angriffs qui fassent des recherches sur les humains, qui découvrent qu'ils sont intelligents et qui finissent par dire ah, non, il ne faut plus les manger, c'est une espèce. Bon, dans Mondes et démons, on n'en est pas encore arrivé là.
Lo que quiero decir que para mí es muy importante destacar que ni los Angriffs ni los aztecas de Rila son malvados, simplemente tienen una cultura distinta a la nuestra.
C'est-à-dire que je tiens vraiment à appuyer une chose, c'est que les Aztèques de Rila, voilà. Les Angriffes de Mondes et démons, c'est pas des barbares, c'est juste des protagonistes. Enfin, ils ont une autre culture, ils sont différents, mais c'est pas des barbares. Ils ont leur logique, ils ont leur construction sociale, et voilà, ils sont juste pas pareils.
Ça nous change des films américains avec Bruce Willis. Est-ce que c'est pour ça que vous écrivez, pour faire comprendre les autres ?
Quizá no, pero es un tema que me interesa mucho, es un tema que me apasiona y es inevitable que cuando escribes recurras a las cosas que te interesan de verdad. No es que escriba por esto, es que si escribo, esa parte, que es una parte que me preocupa, me interesa, forma parte de lo que escribo.
Alors, c'est pas forcément la raison pour laquelle j'écris, mais en tout cas, c'est quand on écrit, forcément, on écrit sur les choses qui nous préoccupent, et ça fait certainement partie des choses qui sont importantes pour moi, et forcément, ça se retrouve dans mon travail.
Mais alors, quelle est la raison qui vous fait écrire ?
Hay una cosa muy curiosa. Una de las entrevistas que me hicieron en la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, me preguntaron lo mismo
Alors donc il y a une chose, c'est curieux parce que en fait j'ai donc été interviewée par les gens de la UPC. Alors la UPC c'est Université Polytechnique de Catalogne qui organise notamment tous les ans un très grand prix littéraire.
Y me preguntaron lo mismo y yo les contesté que bueno que como todo el mundo imaginamos historias en nuestra cabeza cuando vamos andando por la calle. Yo simplemente di el paso de ponerlas por escrito.
Et donc, en fait, moi, je leur ai répondu, ils m'ont posé la même question, donc je leur ai répondu que finalement, ben, je suis comme tout le monde. J'ai des tas d'histoires qui me passent par la tête quand je marche, quand je fais des choses, et puis, ben, moi, j'ai juste franchi le pas en les mettant par écrit.
Entonces, la chica que me hacía la entrevista me dice, yo nunca he imaginado historias cuando voy por la calle, y entonces, estoy un poco loco.
Et ce à quoi la jeune fille qui l'interviewait lui dit, bah, écoutez, non, moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir des histoires dans la tête quand je marche dans la rue, et il dit, je me suis retrouvée un peu, j'avais l'impression d'être un petit peu, un peu folle dingo.
Yo estaba convencido que todo el mundo imaginaba historias, solamente que algunos nos decidíamos a escribirlas.
Et donc en fait, moi je m'imaginais que tout le monde avait des histoires dans la tête et que bah, seuls les écrivains se disaient prenez le temps de les écrire.
Yo creo que habrá mucha gente que las imagine y no las llega a escribir nunca de todas formas.
Ouais, mais je pense quand même qu'il y a des tas de gens qui imaginent des choses mais qui les écrivent pas.
Et vos projets maintenant après la science-fiction un peu hard du filet d'Indra, vous êtes sur une histoire de nouveau de l'histoire de la fantasy historique, de nouveau de la science-fiction pure.
Estoy escribiendo una novela sobre un personaje francés que se llama Vidocq, que será conocido aquí.
Vidocq. Oui, bah, je suis en train de travailler sur une histoire d'un personnage français que vous connaissez bien, Vidocq.
Que encontré un detalle histórico y es que viajó a Londres y conoció a Charles Babbage. Lo conoció realmente y Charles Babbage describe la impresión que le causó Vidocq.
¿Quién?
Charles Babbage fue el creador de la máquina analítica, o sea, una especie de ordenador que funcionaba con vapor y que tenía engranajes que no se llegó a construir. Charles Babbage, igual lo pronuncio mal.
No entiendo cómo lo pronuncias. Charles, tú sabes el...
Charles Babbage.
Babbage. Babbage.
Sí.
Charles Babbage. De temps en temps avec l'accent espagnol, l'anglais avec l'accent espagnol, j'ai un peu de mal. Donc voilà. Et en fait, Vidocq est allé à Londres et a rencontré Charles Babbage, qui était celui qui a conçu une espèce de machine numérique à vapeur, un genre de calculatrice à vapeur. C'est en fait lui, d'ailleurs, Charles Babbage, qui est à l'origine des concepts fondamentaux de l'informatique, hein, voilà, au départ. Et donc voilà, cet événement-là m'avait marqué.
Ahora estoy trabajando en eso, sobre todo me ha interesado mucho el personaje de Ada Lovelace, no sé si lo digo bien, Ada Lovelace, c'est la fille de Lord Byron.
Ah, la fille de Lord Byron.
Ada Lovelace.
Je ne sais pas. Oui, mais j'arrive pas à comprendre.
On ne connaît pas toute l'histoire littéraire.
Non. Et donc, il y avait aussi donc, le personnage de la fille de Lord Byron qui était très intéressant et qui a aussi évolué dans cet environnement-là.
Fue la primera mujer que escribió un programa. O sea, ella diseñó el primer programa de ordenador de la historia.
C'est ça. C'est la première femme qui a écrit le premier, en fait, l'ancêtre du premier programme informatique.
Sí, Lord Byron se estuvo casado un año nada más con la madre de Ada. Y la abandonó y se fue a vivir a Suiza, donde sucedió esa famosa noche en la que se escribió el Frankenstein y todo esto.
Ouais. Et donc Lord Byron finalement a été marié une seule année avec la mère de cette fille-là, et ensuite il est parti en Suisse où ensuite il a commencé à réfléchir au personnage de Frankenstein, enfin où il est après beaucoup plus connu.
Y es muy peligroso preguntarme sobre algo que estoy escribiendo porque como he dicho antes me emociono.
Donc vous voyez d'ailleurs, là ça y est, je suis parti, je suis à nouveau dans mon truc et je commence à raconter à tout le monde. Vous savez pas que.
El personaje de Ada es impresionante porque en esa época las mujeres no tenían derecho a acceder a las universidades. Entonces ella se casó con un conde, William King, y él, que era una persona que no le interesaba nada de la ciencia, se inscribió en la universidad para que Ada tuviera acceso a los libros matemáticos.
Et en fait, donc, à l'époque, les femmes n'avaient absolument pas le droit de faire des études. Enfin, elles étaient complètement reléguées, etc. Et en fait, elle s'est mariée avec quelqu'un. Et qui était en fait universitaire. Et en fait, elle l'a épousée juste pour pouvoir avoir accès aux livres universitaires et à la documentation scientifique pour pouvoir, elle, avancer sur ses propres recherches.
Eh bien, on prolongerait bien d'une heure pour écouter l'histoire de la bouche même de Juan Miguel. Mais ce n'est pas possible, parce que normalement, il y a quelque chose à 15h ici aussi. Alors, Merci Juan Miguel, merci Sylvie et merci Sylvain. Merci à vous d'avoir suivi ce petit débat. Je tiens à préciser que ce n'est pas Lord Byron qui a écrit Frankenstein, mais que c'est dans une nuit sur le lac de Genève que Byron, Percy Shelley et Mary Shelley et le factotum de Byron, John Polidori, par une nuit d'orage, se sont dit « on va écrire une histoire de vampire ». Et c'est Mary Shelley qui écrit en une nuit le début de son Frankenstein. C'était une petite réalité historique à rectifier. Et puis c'est une belle histoire. Voilà, merci à vous, au revoir.